à la découverte du ciel, une émission proposée et présentée par Alain sur la Voix du Béarn 95.10.
À la découverte du ciel, à la découverte de l'univers, les amis, bonjour, oui, c'est Alain. Aujourd'hui, notre émission d'astronomie va être consacrée à une des trois stars de l'été, après la page d'actualité. Oui, oui, si vous avez regardé cet été le ciel, juste après le coucher du soleil, vous aviez trois objets particulièrement brillants, inratables. À l'ouest, Vénus, au sud, Jupiter, et à l'est, Mars, orangé, qui se levait. Jupiter et Mars sont toujours très présents dans le ciel. Par contre, pour voir Vénus actuellement, il faut regarder juste après le coucher du soleil. Dans l'actualité aussi, deux comètes. Giacobini-Zinner, c'est une comète qui est passée le 10 septembre à 58 millions de kilomètres de nous. Et c'est une belle comète avec une très longue queue. Par contre, pour la voir, il fallait absolument des jumelles ou mieux un télescope. L'autre comète, c'est Virtanen. Celle-là, elle est en approche. Et on devrait pouvoir la voir à l'œil nu à partir de la fin du mois. Elle doit passer au plus près du Soleil le 12 décembre. Espérons qu'il y aura un beau spectacle. Dans l'actualité encore, trois sondes. Le 12 août, la NASA a envoyé la sonde Parker qui doit arriver près du Soleil début novembre. Et en 7 ans, elle doit faire 24 survols du Soleil, dont les trois derniers à 6 millions de kilomètres de la surface. Je vous rappelle que la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil. L'objectif de la sonde Parker, c'est d'étudier de près la couronne solaire. Alors, elle s'appelle Parker en hommage à Eugene Parker, qui est un astrophysicien américain qui a découvert le vent solaire. D'ailleurs, Eugene Parker assistait au décollage de sa sonde. Deuxième sonde, Hayabusa 2. Celle-là, c'est une sonde japonaise qui a été lancée en 2014 en direction d'un astéroïde qui s'appelle Ryugu. Un astéroïde qui fait à peu près 900 mètres de diamètre et qui est à 300 millions de kilomètres de la Terre. Hayabusa 2 est arrivée à destination, elle est à une vingtaine de kilomètres de Ryugu et elle teste des procédures de descente. Elle doit larguer un atterrisseur et trois petits robots. Elle doit aussi se poser très brièvement sur la surface de Ryugu. L'objectif, c'est de rapporter, récolter probablement quelques milligrammes de matière et de les ramener sur Terre en 2020. La dernière, si tout se passe bien, le 19 octobre, la sonde Bepi Colombo doit être lancée par une fusée Ariane 5. Bepi Colombo doit se mettre en orbite autour de Mercure en 2025. Bepi Colombo, c'est en hommage à un scientifique, un ingénieur italien qui était consultant de la NASA, qui s'appelait Giuseppe Colombo, enfin, en abrégé Bepi Colombo. C'est lui qui a calculé la trajectoire de la sonde Mariner 10, la première sonde à avoir survolé à trois reprises Mercure, en 1974 et 1975. Depuis, il y a seulement eu la sonde Messenger qui s'est mise en orbite autour de Mercure entre 2011 et 2015. Bepi Colombo sera la troisième sonde seulement à s'approcher de Mercure. Voilà pour notre actualité aujourd'hui. Bon, les amis, maintenant, c'est le moment de retrouver notre invité. Notre invité, vous le connaissez parce qu'il intervient souvent à notre antenne. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Christophe Sanchez. Jean-Christophe, bonjour.
Bonjour.
Vous savez qu'il est historien, vous savez aussi qu'il est passionné d'astronomie. Alors, Jean-Christophe, on va parler de qui aujourd'hui, de quoi ?
De Jupiter.
Jupiter, la planète ?
Ah oui, la planète, pas le président.
D'accord, Jupiter. Donc, et je suppose qu'avec un historien, on va remonter le temps. Parce que, bon, on va pas faire une émission scientifique. Je ne veux pas vous dire que Jupiter est à 780 millions de kilomètres du Soleil. La Terre, c'est 150 millions. Je ne veux pas vous dire non plus que Jupiter fait un tour du Soleil en 12 ans. Non, non, on va voir un peu comment Jupiter a été perçu dans l'histoire. C'est bien ça.
Absolument.
Et on commence à quelle époque ?
On commence il y a très très longtemps. On commence dès la préhistoire. Pourquoi dès la préhistoire ? Parce que cette planète Jupiter, c'est le troisième corps le plus brillant la nuit, après la Lune et après Vénus. Et parfois même, cette planète se retrouve en conjonction avec d'autres planètes et apparaît comme un astre nouveau. Alors, les plus anciens témoignages que l'on ait, c'est-à-dire des témoignages écrits, sur lesquels on peut faire des études, les sources historiques, elles remontent à la Mésopotamie, à la lointaine Babylone. On est il y a 4000 ans.
4000 ans, c'était... Alors, la Mésopotamie, c'est ce qu'on appelle l'Irak, en gros, maintenant.
C'est l'actuel Irak, effectivement.
Et on a retrouvé, donc, des écrits qui mentionnent Jupiter.
Tout à fait. Ce sont des petites tables, des petites tablettes d'argile, dans de l'argile encore humide, a été inscrit par des systèmes de poinçons des positions de la planète Jupiter. Et ces positions sont tellement remarquables que déjà à l'époque, il y a 4000 ans, donc, dans la plus haute antiquité, les astronomes mésopotamiens et babyloniens avaient réussi à calculer une formule qui permettait mathématiquement de savoir quand c'est que cette planète allait se trouver à telle position dans le ciel.
À l'époque, ils avaient déjà des observations très intéressantes, alors.
Oui, oui, nombreuses. Alors, surtout parce que c'était associé à une divinité, c'était le dieu Marduk. Et en sachant la position de cette planète, ils pouvaient faire aussi des prédictions astrologiques.
Oui, parce que, bon, l'astronomie, l'astrologie, c'était la même chose à l'époque.
Ça a été très longtemps la même chose.
Et, bon, ça, c'était les Babyloniens. Et il y a d'autres populations qui observaient aussi.
Oui, oui, à la même époque, les Égyptiens. Alors là aussi, on a des témoignages différents. On n'a pas des papyrus, mais on a de grands plafonds qui ont été conservés, des plafonds astronomiques, où est représentée cette planète sous le trait aussi d'un dieu. C'était le dieu Horus, le dieu à tête de faucon. Elle était appelée l'étoile du sud.
C'était donc un dieu très important à l'époque.
Toutes les planètes du système solaire étaient associées à des grandes divinités. Plus tard, ça sera donc associé à Jupiter, à Zeus.
Il y avait des cartes, on trouvait aussi des formules en Égypte.
On trouvait aussi des formules, mais ils étaient moins versés dans les mathématiques et plus dans l'astrologie. Par contre, ils observaient très bien déjà à l'époque. Au 4e siècle avant Jésus-Christ, on va se déplacer plus loin que l'Égypte, plus loin que la Mésopotamie, on va aller dans la Chine, dans l'ancienne Chine, et là on a le témoignage d'un astronome chinois, qui a laissé là aussi des écrits, qui s'appelle Gandé, qui parle qu'il a vu juste à côté de la planète Jupiter une petite étoile rougeâtre. Ça pourrait être la première mention du satellite Ganymède.
Mais à l'époque, on ne savait pas que c'était un satellite.
Il ne savait pas que c'était un satellite, mais théoriquement, c'est tout à fait possible, lors de certaines positions de la planète, d'occultation, de voir à l'œil nu, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'instrument, de voir cette petite tache rougeâtre.
Ah bon ? Et ensuite, on se rapproche un peu de nous, là, chez les Grecs, les Romains.
On va revenir effectivement chez les Grecs, où la planète va être appelée Phaéton, le brillant, à cause de cette brillance dans le ciel nocturne, et va être associée au roi de l'Olympe, Zeus chez les Grecs, Jupiter chez les Romains.
C'était l'équivalent.
Tout à fait.
Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait, donc, tous ces Grecs-là ?
Ah ben, ces Grecs et ces Romains vont se poser la question déjà de savoir autour de quoi la planète Jupiter tourne. Est-ce qu'elle tourne autour du Soleil ? Ça sera une minorité, ce seront les héliocentristes. Puis la grasse majorité va faire tourner la planète Jupiter autour de la Terre pour expliquer le fameux phénomène d'aller-retour que l'on observe dans le ciel avec les planètes Mars, Jupiter et Saturne.
Ça veut dire que déjà, 400 ans avant Jésus-Christ, il y en a qui savaient que Jupiter tournait autour du Soleil.
Oui, il y avait des savants, effectivement, qui avaient mis l'hypothèse que Jupiter tournait autour du Soleil.
Mais ça s'est perdu, parce que c'est Copernic qui l'a redécouvert.
Il va le redécouvrir, effectivement.
Ah oui. Donc, les Grecs, les Romains aussi ?
Ils observaient attentivement, et à cette époque-là, il y a eu au moins deux moments majeurs. Il faut transporter 7 ans à la naissance du Christ, ou alors 2 ans après la naissance du Christ.
Mais la naissance du Christ, on ne sait pas très bien à quelle date il est né.
Alors par rapport à la date actuelle que l'on considère la 1, voilà, ce fameux 25 décembre, il s'avère que actuellement les logiciels permettent de faire des calculs, il y a eu deux grandes conjonctions. Oui. Deux grandes conjonctions de planètes au cours de laquelle Jupiter se trouvait très proche d'autres étoiles, notamment à l'an 7 avant Jésus-Christ, dans l'année de la constellation du poisson, et le poisson est associé au christianisme, et il se pourrait que cette conjonction, ce phénomène optique où l'on voit donc un astre nouveau, serait la fameuse étoile des rois mages.
Ah, l'étoile qui a guidé les rois mages.
Tout à fait.
C'était en moins 7 avant Jésus-Christ.
Alors, il y a une grande conjonction Jupiter, Mars, Saturne à moins 7, et il y en a une autre entre Jupiter et Vénus en l'an 2. Donc ça pourrait être très bien cette fameuse étoile de Bethléem.
Donc on parle dans la Bible et dans toutes les,
voilà,
les évangiles.
Tout à fait.
Bon, après les Grecs et les Romains, on arrive au tout début du Moyen-Âge. C'est l'époque du système qu'on appelle le système de Ptolémée, ce qu'on appelle le géocentrisme. C'était la Terre et le centre de l'univers et tout le monde tourne autour.
C'est ça, dont Jupiter.
Dont Jupiter. Et c'était des choses assez compliquées quand même, le système.
C'était très compliqué parce qu'il faut s'imaginer qu'à l'époque, les planètes étaient dans des sortes d'orbes de cristal, flottaient dans une matière qu'on appelait l'éther. Et en plus, parce qu'il y a des problèmes dans les positions des planètes, comme expliquait le fameux aller-retour de la planète Jupiter, cette fameuse rétrogradation.
Oui, c'est ce qu'on appelle le mouvement rétrograde, les amis. Si on observe tous les jours la planète Mars ou la planète Jupiter en notant sa position par rapport aux étoiles fixes, on s'aperçoit qu'elle progresse, elle progresse, puis d'un seul coup, elle revient en arrière, puis elle repart.
C'est ça, tout à fait.
Alors là, comment expliquer ça?
Alors, ils avaient expliqué ça par des systèmes de mécanismes de rouage où la planète tombait, partait en arrière, repartait en avant.
C'était compliqué, non?
C'était compliqué, mais ça marchait. Ça marchait tellement bien qu'ils étaient capables, grâce à ce système-là, aux tables astronomiques, de calculer les levées et les couchers héliaques. C'est-à-dire le moment où on va voir Jupiter et le Soleil se lever presque en même temps, et le moment où Jupiter et le Soleil vont se coucher presque en même temps. Les oppositions, c'est quand la Terre va se trouver entre Jupiter et le Soleil.
Oui.
Les occultations de Jupiter par la Lune. C'est-à-dire que la Lune est avant Jupiter, que Jupiter se trouve au-delà de la Lune. Et, bien entendu, ce fameux phénomène rétrograde. Alors, tout ça, ça va intéresser les astronomes. En plus, à l'époque, au Moyen-Âge, il ne faut pas oublier que l'astronome était astrologue. Et l'astrologue était médecin.
Il était médecin aussi.
Et oui, parce que Jupiter, dans les calendriers et les prédictions astrologiques, avait une influence sur les hommes. Et Copernic, d'ailleurs, qui était un astrologue, va associer, comme tous les médecins de l'époque...
Il était aussi médecin, Copernic.
Il était médecin, il était astrologue, il était astronome, il était chanoine. C'est un savant humaniste. Et alors, cette planète, selon les conceptions de l'époque, aurait une influence sur toutes les maladies du poumon et sur le sang.
Donc, pour faire un diagnostic, on faisait une espèce d'horoscope, quoi.
C'était ça. L'horoscope servait de diagnostic médical. Et l'ordonnance, c'était quoi? C'était administrer la substance qui était associée à la planète pour soigner. Donc, si on était atteint de maladies du poumon et ou du sang, qui étaient associées à la planète Jupiter à cause de l'horoscope, ben dans ce cas-là, il fallait manger de l'étain. Il y avait des petits médicaments où on ingurgitait de l'étain qui était censé soigner donc toutes ces maladies.
Et les autres planètes soignaient d'autres maladies.
Exactement. Mais c'est pas si vieux que ça, hein. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, au 19e siècle, en 1868, il y a même un ouvrage.
1868.
Donc voilà, il y a 150 ans, un médecin a publié un ouvrage où il disait, il envisageait que Jupiter pourrait être à l'origine des épidémies de choléra.
Ah oui.
Donc, comme quoi, l'astromédecine, ça dure.
Oui, oui, oui. Donc au Moyen-Âge, ça dure à peu près 1000 ans, à peu près,
c'est
avant
ça,
que Copernic arrive.
Il s'est mis là, c'est un long millénaire ce Moyen-Âge.
Il ne se passe pas grand-chose, quoi, en fait.
Ils observaient toujours la planète Jupiter, et donc elle était associée donc, à ces maladies. Et ceux qu'ils observaient aussi, qui notaient, c'était les grandes conjonctions et les positions remarquables, les oppositions, les occultations de la planète.
Alors Copernic arrive avec son modèle qu'on appelle l'héliocentrisme, c'est-à-dire le Soleil est au milieu et tout le monde tourne autour.
C'est ça.
Et il va décrire un nouveau système qui rencontre des mouvements rétrogrades, par exemple. Mais est-ce que ça marchait, ce système?
Alors techniquement, ça marche, parce que nous sommes dans un univers, dans un système solaire héliocentrique, sauf que du point de vue du calcul, ça marchait beaucoup moins bien.
Alors d'un côté, on avait un système qui est basé sur des hypothèses complètement fausses, mais qui marche bien.
C'est ça.
Et de l'autre côté, Copernic arrive avec un système qui est basé sur la réalité scientifique, mais qui marche moins bien.
Tout à fait.
Alors c'était quand même un sacré dilemme pour les astronomes et les astrologues de l'époque.
Oui, le problème va être résolu en deux temps. Premier temps, c'est Tycho Brahe, qui va faire un système mixte, géo-héliocentrique.
C'était encore compliqué, ça.
Et puis va arriver Kepler, et Kepler va trouver la solution. C'est que les orbites ne sont pas circulaires, sont elliptiques.
C'est vrai qu'on pensait qu'à l'époque, le ciel c'était parfait, le monde des dieux ça pouvait être que parfait, donc forcément circulaire.
Circulaire, absolument.
Alors que bon, c'est...
Il n'est pas tout à fait circulaire.
Kepler qui s'est aperçu que c'était pas vraiment circulaire.
Voilà, il a calculé parce qu'il avait toutes les positions, alors surtout de Mars, mais aussi des autres planètes, il avait toutes les positions, à partir des positions de ces planètes, il est arrivé à... Donc, l'élaboration des fameuses lois et des orbites elliptiques.
Et là, ça marchait beaucoup mieux.
Ça marchait beaucoup mieux.
Voilà.
Et en plus, à cette époque-là, parce qu'on est en 1609,
oui.
Grande nouveauté dans l'astronomie.
Ah bah oui.
Galilée a une lunette. Et au lieu de pointer sa lunette pour regarder les navires arriver à Venise, qu'est-ce qu'il fait ? Il la pointe la nuit et il regarde le ciel.
Et c'est la première fois que quelqu'un regardait le ciel avec une lunette.
Absolument. Et la première fois que l'on observait avec une lunette astronomique la planète Jupiter.
La Lune et tout.
La Lune.
Oui.
Et surtout, les Lunes.
Les Lunes.
Parce que qu'est-ce qui se passe autour de Jupiter ? Qu'est-ce qu'il constate Galilée ? En regardant tous les soirs cette planète Jupiter, il voit que tout autour de Jupiter, il y a trois petites taches lumineuses. Et ces taches lumineuses, soir après soir, ne sont pas au même endroit. Ces taches tournent autour de la planète.
Là, il comprend que ces taches tournent autour de Jupiter. En fait, il a un espèce de mini-système solaire sous les yeux.
C'est ce qui va le convaincre, d'ailleurs, que c'est Copernic qui a raison. Le gros est au centre et le petit tourne autour. Si oui. Jupiter, c'est le gros et que les petites taches tournent autour de Jupiter, ben le Soleil qui est plus gros,
qui est beaucoup plus gros,
ne va pas tourner autour de la Terre. C'est l'inverse.
C'est oui, oui. Donc, Galilée va, en quelque sorte, c'est une révolution, là. C'est
une révolution complète. Complète parce qu'il y a un mini-système solaire qui existe dans le système solaire.
Donc on prouve que bah, vraiment tout ne tourne pas autour de la Terre.
Tout à fait. La Terre n'est plus le centre.
On détruit complètement l'hypothèse géocentrique.
Complètement.
Tourner autour de la Terre. Bon, Galilée est avec ses trois satellites là.
C'est ça. La première mention que l'on a de Galilée, c'est le 7 janvier 1610. Il écrit qu'il a vu trois petites étoiles qui se tiennent près de Jupiter. On le sait maintenant. Et il va le découvrir par la suite. Ce ne sont pas trois grandes lunes de Jupiter, mais ce sont quatre lunes.
Il va falloir trouver un nom, ces petites lunes.
Et il va falloir trouver un nom. Alors nous, on les connaît. C'est Io, Europe, Ganymède et Callisto. Mais ce n'est pas du tout les noms que Galilée avait choisis. Ces noms actuels des quatre grandes lunes de Jupiter, c'est un astronome qui s'appelle Simon Marius qui les a nommés par référence à l'Antiquité et à des personnages qui étaient associés dans la mythologie à Jupiter. Non, non. Galilée, lui, on est au tout début du 17e siècle, on sait qu'il va avoir et qu'il a déjà maille à partir avec l'Église catholique. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir l'appui et la protection de personnages puissants. Il est à Florence. Et à Florence, il y a une famille qui règne, sa famille des Médicis. Qu'est-ce qu'il va faire, Galilée ? Il est à Florence, il a besoin de l'appui et du soutien des Médicis. Il va nommer les quatre lunes de Jupiter en reprenant le prénom de quatre personnages importants de cette famille, comme le grand-duc, son frère Francis, Charles et Philippe. Et lui va les nommer Cosimo, Francesco, Carlo et Filippo. Voire même, parfois, pour aller plus vite, 1, 2, 3 et 4.
D'accord. Mais ça, c'est... Il n'y a que lui qui fait des choses comme ça.
Ah, pas du tout, pas du tout. C'était très commun.
Ah bon.
Cassini, Jean-Dominique Cassini, quand il va découvrir les satellites de Saturne, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va les appeler les planètes de Louis. En hommage à qui ? À Louis XIV, roi de France, qui vient de l'appeler pour diriger l'Observatoire royal de Paris. Herschel. Il découvre la planète Neptune.
Oui.
Mais c'est pas comme ça qu'il appelle. À l'époque, son souverain dans le royaume d'Angleterre, c'est le roi George. Il va l'appeler l'étoile de George.
Ah oui, d'accord. C'était des fins politiques, alors, ces astronomes.
Disons qu'à l'époque, il était, surtout au XVIIe siècle, important d'avoir l'appui du pouvoir politique quand on avançait des théories qui n'étaient pas tout à fait conformes avec ce que la religion pouvait affirmer.
Et ensuite, on va découvrir d'autres choses sur Jupiter.
Ah oui, au XVIIe siècle, alors, il y a des énormes progrès dans les instruments d'observation, mise au point du télescope, des lunettes astronomiques de plus en plus puissantes, et ceci va permettre d'observer de manière beaucoup plus précise et détaillée la surface de la planète Jupiter. Et au milieu du XVIIe siècle, un Anglais, Robert Hooke, et un Italien appelé pour diriger l'Observatoire royal de Paris, Cassini, vont observer Jupiter. Le premier Hooke, fin 1664,
oui.
Et le deuxième Cassini, début 1665, vont dire « J'ai vu sur la surface de Jupiter une grande tache rouge. »
Cette tache rouge, on la voit toujours, bien sûr.
Alors, voilà, elle existe toujours. Elle devait exister, ça nul doute avant, mais elle n'avait pas été observée. Et ce qu'ils observent aussi, ce sont les bandes de Jupiter.
Et ça permet de calculer cette tache rouge et la vitesse de rotation de Jupiter sur elle-même.
C'est ça, le grand intérêt, c'est que maintenant, il y a un repère. Et donc, ils peuvent calculer, avec les progrès aussi de l'horlogerie, le temps que met Jupiter pour faire un tour. Mais surtout, ce qui était très important, c'est que ils affirment, ils peuvent montrer que une planète tourne autour d'elle-même. Et à nouveau, oui. Copernic a raison.
Parce que ça, effectivement, on ne savait pas avant.
Les planètes ne sont pas immobiles.
Oui. Donc, on a parlé aussi de la vitesse de la lumière grâce à Jupiter, qu'on avait découvert grâce à Jupiter.
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais effectivement, en même temps que Cassini arrive à l'Observatoire de Paris, il y a un astronome danois qui va être appelé, qui va travailler à l'Observatoire de Paris, c'est Olaus Römer. Et lui, Olaus Römer, il va s'intéresser à Io, il va remarquer qu'il y a des variations qu'il faut chercher à expliquer. Et ces variations, par rapport à ses calculs sur le satellite Io, il va avoir les éléments pour affirmer, ce qui est à l'époque aussi utilisé une grande révolution, que la lumière a une vitesse. La lumière a une vitesse. Il n'a pas calculé la vitesse de la lumière, il a estimé, il ne l'a pas calculé, mais il a affirmé que la vitesse a une lumière. La lumière a une vitesse.
Oui, ben, les amis, on va continuer notre exploration temporelle de Jupiter. Dans la deuxième partie de l'émission, on verra la suite jusqu'à nos jours.
Like
les amis, si vous nous rejoignez sur 95.10, bienvenue. Aujourd'hui, notre émission d'astronomie est consacrée à Jupiter avec notre invité Jean-Christophe Sanchez. Alors, avec Jean-Christophe, on a vu l'observation depuis 4000 ans avant Jésus-Christ, l'observation de Jupiter. On est arrivé au XVIIe siècle. Continue maintenant, on va passer au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle?
Au XVIIIe siècle, cette planète Jupiter et ses satellites, ces quatre satellites, on va continuer à les observer, d'autant plus que la position de ces satellites permet d'obtenir des tables astronomiques de Jupiter, et ils vont permettre pendant très longtemps de calculer la longitude des bateaux.
Oui, ça c'est un problème récurrent.
C'est un problème très important, et une des solutions, c'est justement ces satellites de Jupiter, selon leur position, on va pouvoir savoir où on se trouve par rapport au point de départ. Et l'autre grande interrogation de ce 18e siècle, c'est quand va revenir la comète que Edmond Halley a vue et annoncée devant revenir de manière périodique. Mais là, on a un problème. Oui. C'est que entre nous et cette comète, il y a Jupiter. Newton est passé par là. La mécanique céleste existe. La loi de la gravitation. Et va se poser un problème majeur, qui est celui des trois corps. Jupiter est tellement grande comme planète qu'elle va influencer l'orbite de la comète de Halley. Et ça va être un problème mathématique que trois personnes ont tenté de résoudre, Clairaut, Lalande et Madame Le Pote.
Clairaut, grand mathématicien français de l'époque.
Grand mathématicien, mais il fallait des petites mains, surtout oui. Qu'on n'avait pas de calculatrice. Et la petite main, celle qui va faire le plus de travail, c'est Madame Le Pote, justement, appliquer la loi de la gravitation universelle à Jupiter et à la comète de Halley.
C'était des calculs pharaoniques, je dirais.
C'était des calculs pharaoniques, on pourrait même dire d'apothicaire, c'était d'immenses calculs qu'il fallait réaliser, et tout ça avec les moyens de l'époque.
Oui, et dans l'urgence en plus, parce qu'il fallait annoncer le résultat avant que la comète arrive.
Ah, le but, oui, c'était effectivement de calculer de manière précise le retour avant qu'elle ne soit là. Et ils ont réussi.
Et c'était aussi une petite révolution, parce que à l'époque, ça montrait bien que les comètes obéissait aux lois de la mécanique céleste de Newton.
C'est ça. Et ça prouve aussi que...
les envoyés d'une quelconque divinité.
Tout à fait. Et ça prouve aussi que le système qui s'est mis en place, le système héliocentrique avec des orbites elliptiques, est mathématiquement cohérent.
Ah, ça, c'était aussi une révolution à l'époque.
Une grande révolution.
Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? 18e siècle?
18e siècle, mis à part ça, ouais. Pas grand-chose. On observe les satellites.
Oui,
bon. On calcule la force d'attraction de Jupiter pour le retour à comète de Halley. La tache rouge est toujours là, les bandes sont toujours là, les calculs se précisent mais restent les mêmes par rapport à la rotation de Jupiter. Il faut attendre presque un siècle. Il faut attendre le 9 septembre 1892.
Oui, qu'est-ce qui se passe?
On est à l'observatoire de Lick.
Du côté de San Francisco.
Voilà, on est aux États-Unis. Et là, il y a un astronome qui s'appelle Barnard, qui dispose d'une grande lunette astronomique par la taille. C'est une lunette de 91 cm. Il la pointe vers Jupiter. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit 282 ans après Galilée, un cinquième satellite de Jupiter. Il y avait Io, il y avait Europe, il y avait Ganymède, il y avait Callisto. Et maintenant, on a Jupiter 5.
Oui, Jupiter 5. Oui.
Pas joli, Jupiter 5. Il faudrait lui trouver un nom.
Oui, parce que...
Alors, Simon Marius, celui qui a nommé, avec les noms actuels, les quatre satellites de Jupiter, s'est inspiré de la mythologie.
Oui.
Jupiter, c'est un dieu qui avait beaucoup d'aventures avec des femmes, mais aussi avec des hommes. Et il va choisir Simon Marius, parmi les amantes et un amant de Jupiter, les quatre noms. Et puis là, c'est Camille Flammarion. Et Camille Flammarion va se plancher aussi dans la mythologie et proposer d'appeler Jupiter 5 Amalthée.
Amalthée.
Oui, le nom d'une chèvre.
Une chèvre?
Oui. Pourquoi il a choisi la chèvre? C'était pas une amante de Jupiter, c'était la chèvre qui, selon la mythologie, a allaité l'enfant Jupiter quand il était tout petit.
Bon, 19e siècle, un événement important, c'est l'invention de la photographie.
L'invention de la photographie, effectivement, qui va permettre là de conserver des images beaucoup plus fines et beaucoup plus nombreuses, parce que jusqu'alors, le seul moyen qu'on avait de conserver des traces de ces observations, c'était des dessins qui étaient faits main nue. Et l'autre grande révolution, toujours avec la photographie, quelques temps après, ça va être la cinématographie. Et on va voir les premières images animées de la rotation, notamment de la planète Jupiter.
Ensuite, il y a aussi la spectroscopie qui va être mise au point là.
Révolution fondamentale pour l'astrophysique. Grâce à la décomposition du spectre lumineux qui vient de Jupiter, il sera possible de déterminer de quoi cette planète est composée.
On va trouver
du méthane, de l'ammoniac, des gaz, tout ce qui constitue donc cette planète gazeuse.
Donc on arrive maintenant rapidement au XXe siècle, et là, alors là c'est une révolution, c'est plus qu'une révolution, ce sont les sondes.
L'homme a réussi à envoyer à proximité de la planète, alors à proximité, les deux premières à partir, ce sont les sondes Pioneer en 73, Pioneer 10 et Pioneer 11, qui vont s'approcher respectivement à peu près 150 000, et la deuxième à un peu plus de 30 000 km de la planète. C'est énorme, mais on est vraiment au plus près.
Ah oui, mais ces sondes-là, elles ne font que passer. Hein.
Elles ne font que passer, mais elles vont prendre des photographies. Ah. Alors, ce ne sont pas les seules. Effectivement, il faut distinguer les sondes qui sont de passage, comme par la suite les sondes Voyager.
Oui.
Mais elles sont peut-être de passage, mais font des découvertes fondamentales aussi, les sondes Voyager, lancées en 79. Oui. Elles vont permettre de voir, d'observer et de constater que Jupiter, comme Saturne, a un anneau planétaire.
Alors, il n'y a pas que Jupiter. D'ailleurs, on sait maintenant qu'il y a également Uranus, il y a également Neptune qui ont des anneaux. Toutes les planètes gazeuses ont des anneaux.
Toutes les planètes gazeuses et géantes ont effectivement des anneaux. Et là, ça va être une découverte. Alors, c'était soupçonné. Herschel avait déjà soupçonné cet anneau, mais il n'y avait aucun élément qui permettait de le prouver. Là, ça y est, c'est fait.
C'est grâce aux sondes voyageurs. Mais je vous rappelle que les sondes voyageurs, ça fait plus de 40 ans qu'elles naviguent. Et puis, on a toujours des signaux qui nous parviennent, hein. Elles sont très très loin, elles sont quasiment sorties du système solaire, mais elles continuent. Autre sonde, il y a la sonde Ulysse aussi.
Alors la sonde Ulysse, effectivement, alors elle a été à destination du Soleil, parce que les astronautes plutôt qui lancent les sondes se servent des grandes planètes par leur force d'attraction comme des frondes. Alors Ulysse est à destination du Soleil. Elle est passée à un peu plus de 400 000 km de la planète. Mais ça, c'est intéressant, parce que ça va être une étude de la magnétosphère. Il n'y avait pas de photographie qui était prise.
Oui.
Et surtout, cette sonde Ulysse, en 92, qui est lancée, passe, alors que se prépare un événement aussi très important, ça va être le rendez-vous entre Jupiter et une comète, la comète Schumacher-Levy. Ça va être un rendez-vous fatal. Pourquoi ? Parce que la comète va s'écraser dans Jupiter, ce sont des impacts, et ces impacts vont permettre aussi d'avoir une idée de ce qui se trouve sous cette couche de nuages que l'on voit.
Oui, parce que ces impacts ont été évidemment observés par tous les grands télescopes terrestres, et bien sûr, on a pu en déduire un certain nombre de choses concernant la haute atmosphère de Jupiter. Et d'autres sondes, alors là, il n'y a pas longtemps, Cassini.
Sonde Cassini, effectivement.
Cassini et New Horizons aussi, qui sont passés pas loin. Hein,
voilà.
En route pour d'autres destinations, mais...
Et après, il y a effectivement une sonde importante qui va être lancée en 89, qui va être en mission de 95 à 2003, c'est la sonde Galileo.
Galileo, c'est une sonde qui a survolé, qui s'est mise par contre, elle, en orbite autour de Jupiter et qui a aussi survolé les satellites.
Alors, qui a survolé les satellites et surtout qui avait une partie de cette sonde qui a été envoyée se cracher directement dans l'atmosphère de Jupiter, et c'est la première fois donc qu'on a eu des études qui permettaient, avec des instruments de mesure, grâce à ce crasheur, d'observer et d'étudier l'atmosphère de Jupiter.
Et puis on a découvert aussi sur Europe de la glace.
Immense découverte sur Europe, effectivement. Une sorte de banquise.
Oui, une espèce de planète de glace.
Une planète de glace, et sous cette glace, il semblerait qu'il y ait un océan.
Qu'il y ait un océan, qu'il y ait de l'eau, et qui dit eau, dit...
possibilité effectivement d'une vie peut-être, d'autant plus qu'une particularité de Jupiter, c'est que Jupiter renvoie plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil.
Oui.
Jupiter émet de l'énergie. Cette énergie, cette force de cette planète géante, fait que cette immense calotte de glace sur Europe bouge, et on a des phénomènes, comme dans la banquise que nous avons au pôle Nord et au pôle Sud, de craquelement, et il se pourrait donc qu'en dessous, par la force d'attraction, il y ait des mouvements qui auraient permis donc l'existence, ou qui permettraient l'existence d'un océan.
C'est ça. Et puis maintenant, le présent. Le présent, c'est Juno.
Juno, alors ça aussi, un petit clin d'œil peut-être des astronautes, parce que Juno, c'est le nom en latin et en anglais de l'épouse de Jupiter. Alors, on a vu, beaucoup de satellites ont été nommés du nom de maîtresse et d'amant de Jupiter. Et voici la femme de Jupiter qui a donc été lancée. C'est une mission d'observation, effectivement, pour étudier toujours cette planète géante.
Alors, la particularité de Juno, c'est qu'elle est en orbite, elle passe au-dessus des pôles de Juno. De Jupiter.
De Jupiter. Alors ça, oui. Voilà, c'est une grande nouveauté parce qu'on a une vision on a une vision complètement différente de la planète.
Et on retrouve une espèce de grosse tache aussi au sommet de chaque pôle.
C'est ça.
Bon. Et puis le présent et le futur aussi.
Le futur,
c'est Juice.
Tout à fait. Nouvelle mission qui est toujours, dans les cartons.
Qui est dans les cartons. Une sonde qui devrait partir en 2022 pour arriver en 2030. Et qui va s'intéresser plus particulièrement à Callisto, Europe, Ganymède.
Et oui, parce que le grand défi maintenant, la nouvelle frontière, ce sont ces, non pas la planète, mais ce sont les satellites de Jupiter qui pourraient peut-être être des lieux où existe la vie, ou peut-être accueillir des futures colonies terriennes.
Et oui. Alors voyez, les amis, bon, notre émission va bientôt se terminer. Hein. Nous avons fait un... Comme les sondes, on a fait un survol de l'histoire de l'observation de Jupiter depuis 4000 ans avant Jésus-Christ, pour arriver maintenant, et on a vu le rôle important qui est joué par Jupiter au cours des siècles dans l'histoire de l'astronomie, l'estimation de la vitesse de la lumière, le calcul des longitudes, présence d'anneaux, composition, aspect des pôles de Jupiter. Un rôle important pour l'astronomie et aussi pour l'humanité. C'est en observant les satellites de Jupiter que Galilée a acquis la conviction que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, et par l'inverse, la Terre n'était plus le centre de l'univers, l'homme n'était plus le centre de l'univers. Et puis également, maintenant encore une autre question, pourquoi pas la vie dans les profondeurs d'Europe, la vie ailleurs que sur Terre, les amis. Voilà, Jean-Christophe, merci de nous avoir consacré cette demi-heure.
Avec grand plaisir.
Et à bientôt, les amis.
Au revoir.
À la découverte du ciel, une émission proposée et présentée par Alain sur la Voix du Béarn 95.10. Vous écoutez la Voix du Béarn sur 95.10.